Loué et exalté soit notre Dieu pour sa grâce et de ce que nous pouvons être de nouveau ce matin ici, rassemblés devant sa face, adorer son nom et lui dire merci. Je ne sais pas, pour moi, hier soir, c'était une soirée merveilleuse. Ces paroles de consolation, une parole de joie, parole d'édification et que Dieu puisse nous accorder encore sa parole aujourd'hui pour l'honneur de son nom et l'honneur de sa gloire. Avant la prière, je voudrais lire une parole de l'évangile de Jean, une parole très connue, au chapitre 15, le verset 1. Ici, Dieu le Seigneur parle, l'Éternel Dieu parle et nous montre de quelle manière nous devons venir à ces choses. Permettez-moi de dire que nous avons entendu ce que nous avons entendu hier soir, comment venir à cette perfection en Christ, que nous voulons être en lui et demeurer dans cette perfection en lui. Et ici dans Jean 15, verset 1, je suis le vrai sceptre. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples, et qu'il sera prouvé que vous êtes mes disciples, en allemand. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que la joie telle que je l'ai, ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jusqu'ici, cette précieuse et merveilleuse parole de Dieu. Que Dieu puisse nous faire grâce encore ce matin pour que nous puissions demeurer en lui le vivant, le véritable, demeurer attaché à lui, le seul vrai Dieu, rester attaché à lui, demeurer en lui, pour qu'il puisse nous émonder, nous purifier, nous sanctifier, pour que nous puissions porter du fruit pour la gloire de son nom. Nous voulons nous lever pour prier ensemble. Père céleste, nous te remercions pour ta grâce et ta fidélité, ô Dieu. Nous te remercions de ce que tu nous as fait grâce en ce que nous pouvons nous réunir, nous rassembler devant ta face, ô Dieu, Seigneur. Tu sais, nous voulons rien en dehors de toi, le véritable et le Dieu vivant. Nous n'avons pas d'autre désir que celui-ci, de demeurer attaché en toi, de rester attaché en toi, demeurer en toi, parce que Seigneur au ciel, c'est de toi que sort la sève, la vie, la puissance, et nous voulons en être participants, ô Dieu. Aussi pour que le fruit soit parfait en toi, ô Dieu, et que nous puissions, Seigneur, venir à cet amour parfait, ô Jésus-Christ, aide-moi, aide-nous tous, accorde-nous ta grâce pour que nous ayons des oreilles ouvertes, des cœurs ouverts, des yeux ouverts pour pour, Seigneur, voir tout ce qui se passe autour de nous et que ta parole puisse, Seigneur, produire selon son effet et que nous puissions produire du fruit pour la gloire de ton nom. Bénis les lèvres par lesquelles tu parleras au Dieu. Bénis ta parole et accorde-nous ta grâce aussi pour la recevoir. Amen.
Amen.
Père céleste, nous venons devant ta sainte face, ô Dieu, touchés profondément par ce qui s'est passé. Et nous sommes conscients, étant conscients que nous vivons dans les derniers jours. Les hommes sont orgueilleux, fanfarons, hautains, et tout ce qui appartient à cette nature, une haute estime d'eux-mêmes, mais tu as un reste, une semence divine qui regarde à la terre et en même temps regarde au ciel. Tu baisses la tête donc, mère, regarde au ciel aussi. Et ainsi, pour tous ceux qui sont touchés, tous les frères et les sœurs, tous les frères et toutes les sœurs dans la région là-bas, pour tous ceux qui souffrent, qui portent de la douleur, qui ressentent de la douleur, ô bien-aimé Seigneur, que tu puisses mettre fin à toute cette détresse et reviens bientôt pour nous prendre auprès de toi. À toi, nous te remettons tout entre tes mains. Bénis aussi notre frère Hans Bauer. Ô Seigneur, bénis tous ceux qui, de tout leur cœur, crient à toi. Seigneur, qui ont mis leur espérance en toi. Tu sais comment est-ce que cela m'a touché. Seigneur, j'ai pardonné tous, tels que toi tu m'as pardonné. Seigneur, c'est ainsi que j'ai pardonné. Seigneur Dieu, ramène encore beaucoup au bon sens et rends-les calmes et recueillis dans ta présence. Arrache-les de toute influence destructrice et meurtrière et reçois ce qui te revient de plein droit et viens avec ton esprit sur eux et fais toutes choses bien. Bénis-nous aussi ce matin et sois avec nous par ta grâce dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Nous nous asseyons. Que ce matin, je n'ai vraiment pas le désir de me tenir ici devant. Vous pouvez bien vous imaginer tous. C'est une grande différence entre quelqu'un qui peut être assis pendant une réunion et peut écouter et entre quelqu'un qui doit se tenir devant et prêcher et parler. Et la responsabilité, justement dans ce dernier temps, d'apporter la parole de Dieu est tellement grande qu'on doit dire, comme Paul, j'étais auprès de vous avec grande faiblesse, crainte et grand tremblement, mais avec une grande assurance, j'ai apporté la parole du Seigneur. Ce n'est pas quelque chose de facile. Et comme Jacques écrit, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Nous ne sommes pas ici pour juger, mais lors de telles occasions, cela va très profond dans le cœur. Et qu'est-ce que je souhaiterais de plus? Que toutes les interprétations et les explications et tous les enseignements qui ne sont pas en accord avec les Saintes Écritures soient mis de côté, abandonnés, soient abandonnés, et que le peuple de Dieu puisse se rassembler devant le Seigneur. Personne avec son propre programme, avec ses façons de voir et ses enseignements, ses opinions, mais que chacun soit dans le programme de Dieu, dans l'enseignement de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans l'église de Dieu, que cette union divine, une fois pour toutes, soit parmi nous. Tel que nous comprenons les Saintes Écritures, n'est-ce pas, à la fin, une église existera qui sera sans tache, sans ride, comme elle était au commencement. Elle était un seul cœur, une seule âme, parfaitement unie. L'amour divin nous unit les uns avec les autres et avec Dieu. Mais la parole que le frère Schmitt a lue m'a aussi beaucoup touché le cœur. Et je ne crois pas qu'il y a une parole plus terrible que ça dans toutes les Saintes Écritures. Peut-être que cela vous a un peu choqué, ce que je viens de dire. Mais je vais vous lire le verset dont je veux parler. Le verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Un sarment qui est dans le Seigneur, qui est dans le cep, pas un étranger, pas quelqu'un qui est à l'extérieur, pas une mauvaise herbe, pas quelque chose qui ressemble au blé, pas des gens qui renient l'existence de Dieu. Non, un sarment qui est sur le cep, qui est sur le cep. C'est ce que nous devons comprendre ici. L'importance, le sérieux. Vous pouvez encore vous-même vous lire le verset 2 avec le verset 6. Le verset 1, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Tout sarment qui est en moi, ok, sur le cep, pas de rejeton sauvage, un sarment sur le cep. Mais s'il ne porte pas de fruits divins, ils seront retranchés. Un sarment précieux sur le cep, mais dans ce cas, à la fin, il ne sert à rien d'autre que d'être jeté au feu et d'être brûlé. Je vous pose la question. Est-ce qu'il y a une parole qui peut être plus grave que ça, une expression dans les Saintes Écritures, un verset qui a plus de poids, plus de sérieux en soi que ce verset que nous venons de lire, le verset 2 et le verset 6 ensemble? Cela produit en nous de la réflexion pour que nous puissions bien savoir, nous poser la question, où est notre position spirituelle? Pas ce que nous pensons, mais tel que Dieu lui nous voit. Qu'es-tu? Que suis-je aux yeux de Dieu? Sommes-nous des sarments sur le cep qui ont encore de la vie en eux, qui portent du fruit? Des sarments bénis par Dieu, bénis de Dieu, dans lesquels sa vie palpite et est. Vous savez, c'est pas le cep qui porte du fruit, ce sont les sarments qui portent le fruit. Et nous sommes les sarments. Lui, il est le cep. Nous, en tant que sarments, nous portons le fruit du cep. Pas mon fruit, ton fruit, notre fruit, mais son fruit, le fruit de l'Esprit. La vie divine qui était en Christ. Le cep qui est en Christ, le cep, la même vie doit être en toi et en moi. La même vie. Tout le reste ne compte pas. Ça ne pourra pas subsister devant Dieu. Chaque serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, le purifie afin qu'il porte encore plus de fruits. Nous voulons appartenir à ce deuxième troupeau du verset 2. Être des serments qui ont du fruit à la sève, des serments en qui encore la vie, en qui la vie divine est, même si elle n'a pas pu encore se manifester. Mais malgré tout, je crois de tout mon cœur, même si elle n'a pas encore pu apparaître, mais malgré tout, je crois que Dieu nous a placés en Christ et que nous avons la grâce comme des serments d'être en lui le cep et que nous portons ce désir en nous de révéler son fruit, de faire manifester son fruit. Au verset 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. C'est tout le mystère ici va ensemble avec la parole de Dieu. Vous êtes pur, déjà pur à cause de la parole de Dieu. Vous êtes immergé dans le bain de la parole de Dieu. Vous avez reçu la circoncision spirituelle. Vous êtes en moi. Le verset 16, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ici, il ne s'agit pas seulement d'une connaissance. Ici, il s'agit de ce que Dieu s'est proposé de faire avec l'Église. Mais qu'est-ce qui se passe si des gens sont purifiés dans le bain de la parole de Dieu, c'est-à-dire par la parole que Dieu nous a annoncée, nous a adressée, de manière si claire et vraie, il a révélé, de manière qu'il a révélé si claire et vraie, et ils repartent et se souillent encore avec toutes les interprétations et les explications qu'ils acceptent et qu'ils tolèrent. À quoi est-ce que ça va servir d'être lavé, d'avoir pris un bain de la parole si on a l'air pire plus tard qu'avant. Et on voit à toutes les interprétations quand on entend tout ce qui est interprété et est expliqué de la parole de Dieu, toutes ces interprétations et ces explications, ça déchire le cœur, encore une fois. Nous l'avons dit et nous le dirons encore jusqu'à la fin. Dieu est le Dieu de sa parole. Jamais il sortira du cadre de sa parole. L'Esprit de Dieu ne le fera jamais. Les Saintes Écritures sont le témoignage parfait et clos de Jésus-Christ et contient tout le dessein du salut de notre Dieu. Il est écrit dans le dernier chapitre: celui qui ajoute quelque chose à la parole, aux paroles de la prophétie de ce livre, les fléaux qui sont écrits viendront sur lui. C'est une chose importante que les gens ne peuvent pas s'imaginer ou bien penser à ça parce qu'ils sont occupés, ils ne peuvent pas être recueillis, calmes, tranquilles, ils sont remplis de quelque chose. Et ils ne savent pas ce qu'ils font et ce qui les motive, ce qui les pousse et ce qu'ils font. Qu'est-ce qui les conduit, les pousse à agir comme ça? Celui qui est né de Dieu, il demeure en Dieu. Et celui qui demeure en Dieu, il demeure dans sa parole. Qu'est-ce qui s'était passé avec comment la transgression a eu lieu au commencement? Ça a été le fait de sortir du cadre de la parole de Dieu. Le Seigneur, dans sa grâce, dans ces derniers jours, nous a accordé un bain pur dans l'eau de sa parole. Et nous pouvons prendre cette parole pour nous et la croire et nous dire l'un à l'autre, vous êtes purs à cause de la parole de Dieu que je vous ai adressée, dit le Seigneur. Je ne crois pas qu'un Paul ou bien qu'un Pierre et que quelqu'un des hommes de Dieu, des prophètes ou même frère Branham, mais que c'est le Seigneur qui a oint ces hommes et que c'est lui qui parlait par eux. William Branham et Paul n'ont rien à me dire. Mais Dieu a eu beaucoup de choses à me dire par tous les prophètes et par tous les apôtres jusqu'à frère Branham. Il a eu beaucoup à me dire et tout à me dire. Et ça, nous pouvons bien faire la différence des choses. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela. Si ici il est écrit, au verset 3, la parole que je vous ai annoncée, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, car l'Esprit de mon Père, c'est lui qui parlera par vous, qui vous donnera ce que vous avez à dire. Et il dit toujours de nouveau, dans chacune des écrits aux églises, dans Apocalypse, que celui qui a des oreilles, qu'il entende, qu'il écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Pas ce que dit ce frère ou bien un autre frère, mais là où Dieu parle, c'est là que nous avons la parole de Dieu. Et là où il y a la parole de Dieu, il y a la révélation de Dieu et aussi la connaissance de Dieu. Et ici, il est dit encore, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le verset 4, comme le sarment de Jean 15 ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. De demeurer dans le Seigneur, de demeurer dans sa parole. Nous voulons recevoir ça dans notre cœur et dire au Dieu que cette parole dans ma vie soit vraie, soit réelle. Mets-moi en toi. Conserve-moi en toi. Que ta vie par toutes les branches puisse venir jusqu'à dans les sarments. Pour que le fruit divin puisse apparaître, puisse être visible. Je suis le cep, vous êtes les sarments, le verset 5. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous savons tous très exactement quand au printemps, la vie vient dans les arbres, l'arbre lui-même ne peut rien faire. Mais les racines sont dans la terre. Et la sève passe bien derrière l'écorce. Derrière l'écorce. Et pénètre jusqu'à dans les branches. Mais bien-aimés, nous devons être enracinés dans la parole de Dieu. Nous devons être ancrés dans la parole de Dieu et avoir pris notre position en Dieu et dans son royaume. Et ne pas comme ça continuer à être ballotté par tout vent de doctrine. Ici, aujourd'hui, demain, là-bas. Mais être enraciné, profondément enraciné dans le Seigneur. Être fondé fermement, se tenir fondé fermement pour que par les racines, la vie divine puisse venir. Christ est le rejeton de David, l'étoile du matin, l'étoile brillante du matin. Il est le tronc et nous sommes les sarments sur lui. Et nous croyons qu'il ne se fane jamais, qu'il ne se dessèche jamais, mais qu'il accorde à tous ceux qui demeurent sur lui toujours une nouvelle saveur de vie et que par sa vie, il nous rend capable de porter du fruit. Le verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous ne demeurez pas en moi, avoir été en lui, mais ne demeure pas en lui. Alors, pris, ramassé, jeté au feu et brûlé. À quoi est-ce que ça servit? Une fois d'avoir été en lui, d'avoir cru. Nous avons à croire jusqu'à la fin. Chaque parole de Dieu, croire chaque parole de Dieu, pour que nous ne soyons pas retranchés de la vie divine, pas d'interprétation et des explications, mais conserver la connexion avec Dieu. Pourquoi est-ce que nous avons dit depuis le début, souligné qu'il est important de trouver le lien avec l'œuvre de Dieu, la relation, la liaison avec l'œuvre de Dieu, afin d'être dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, tel que nous l'avons dit, et c'est écrit, le Seigneur, n'est-ce pas, lui-même l'a prononcé en tant que premier, ne vient pas pour frapper les regards. On ne peut pas dire, oui, le royaume est ici, était là, mais il est en vous. Et alors cela sera révélé que le royaume de Dieu est en nous et que nous pouvons être dans ce royaume par la grâce de Dieu. Si vous demeurez en moi, verset 7, et que mes paroles demeurent en vous, demandez alors ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez de fruits, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez et qu'il sera prouvé que vous êtes mes disciples. Ça, je me le souhaite. Je le désire pour moi, je le désire pour vous tous, pour nous tous. Nous qui nous appuyons sur Dieu, qui croyons sa parole, nous qui acceptons la honte et le déshonneur, je dois penser au Seigneur quand on entend plusieurs choses. Il était tellement défiguré qu'on ne pouvait pas le regarder. On devait détourner le visage. Lui, le Rédempteur, le Sauveur, le Roi de tous les rois. Dans Ésaïe 53, il nous est décrit en tant que quelqu'un que les hommes ont abandonné, en tant que quelqu'un de complètement défiguré. Et malgré tout, il est allé pour... Et malgré tout, c'était lui qui était allé pour te sauver, pour me sauver. Il a tout pris sur lui. Il s'est chargé de tout. Il a tout supporté, tout subi, tout permis. Quand il semblait qu'il avait succombé et que tous les autres avaient gagné, qu'une fin était préparée pour lui, c'est justement à ce moment-là où, humainement parlant, tout était fini. C'est là que Dieu, en Christ, a accordé la plus grande victoire sur toute la puissance de Satan, sur l'enfer, et a accordé par la grâce de Dieu une pleine rédemption. Pourquoi est-ce que nous ne devons pas pouvoir croire que le Seigneur peut à la fin accorder une victoire divine et parfaite dans les rachetés? Pas ce que nous voulons faire, Mais ce que Dieu, par grâce, peut faire en nous et par nous en accord avec sa parole et par son esprit. Au verset 9, il est écrit, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure ainsi dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est avec certitude que nous pouvons dire que le Seigneur n'a jamais ri. Il était l'homme de douleur. Il allait à Golgotha. C'est une différence d'avoir une joie extérieure et cette joie profonde de Dieu qui remplit notre cœur jusqu'à le plus profond de notre âme. Pour que l'afflux de la puissance de Dieu soit garanti et que par la grâce de Dieu, nous puissions fleurir. Ou alors nous épanouir et ce que nous avons lu aussi tout à l'heure, parce que ce que nous lui demandons, il nous l'accorde. Comme il a dit, demeurez, si vous demeurez à moi, demandez ce que vous voulez et je vous l'accorderai. Vous savez, ce qu'on demande doit être dans la volonté de Dieu, en accord avec la parole de Dieu. Et si c'est le cas, Dieu va l'exaucer. Et par sa grâce accorder ce que nous lui demandions dans la supplication et la prière. Notre joie dans notre Dieu doit être parfaite, devenir parfaite. Parfait. Ce qui n'est pas encore, est peut-être en train de se manifester, de devenir visible. Auprès du Seigneur, c'était aussi un cheminement, un chemin, un développement. Mais ensuite, quand il mourut et qu'il fut enseveli et qu'il est allé dans les endroits inférieurs de la terre, en enfer, et que le troisième jour, il est ressuscité, la joie n'était pas seulement en lui, mais elle était aussi en tous ceux qui, après sa résurrection, l'ont vu et l'ont entendu. Ils se sont réjouis, c'est ainsi que c'est écrit. Ils se sont réjouis de voir le Seigneur. Mais bien-aimés, il y a une joie divine profonde qu'aucun homme peut nous ôter. Elle est indépendante de la vie et de la mort et indépendante des circonstances. Elle nous a été accordée par Dieu. Elle vient de Dieu, une joie dans le Seigneur, qui est notre force. Je voudrais revenir à Éphésiens chapitre 1 et continuer un peu à lire de hier soir la suite. Ici, il est dit, à partir du verset 9, nous l'avions déjà lu, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre en exécution dès que les temps eurent atteint la pleine mesure du développement qu'il avait ordonné, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. En allemand, en lui, nous sommes maintenant aussi devenus participants de la possession promise du salut. ayant été prédestiné à cela, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et après avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux, pour la rédemption de son Église qui lui appartient, pour la rédemption de l'Église qui s'est acquise pour célébrer sa gloire en allemand. L'Église qui s'est acquise. Cette parole doit aussi toucher notre cœur, pas seulement avoir cru, mais comme frère Branham, dans la prédication, le dit, que Dieu donne la réponse aux croyants. Et que ce n'est pas seulement une onction qui nous rend capables de faire quelque chose dans le domaine spirituel, mais que c'est un sceau, ça pourrait être un sceau de Dieu, un scellement avec le Saint-Esprit, du Saint-Esprit. C'est la plus grande, c'est la grande différence que, n'est-ce pas, nous voyons particulièrement dans ce temps, des millions se louent d'avoir reçu l'Esprit de Dieu et d'être loin du Saint-Esprit. Mais la question est justifiée. Qui a été scellé? Qui a reçu en lui la parole de Dieu en tant que vérité pure et n'a rien ajouté à cette vérité de la parole de Dieu? Car aussi vrai que la parole de Dieu est venue de l'Esprit de Dieu, c'est ainsi que l'Esprit de Dieu vient aussi en eux, en ceux, et établit sa demeure en ceux qui reçoivent la parole de Dieu dans leur cœur. Et le prophète Ésaïe dit, la parole est scellée ensuite dans le cœur des disciples. Il s'agit de la parole. Ésaïe 8, verset 16. Il s'agit de la parole qui doit être en toi et en moi, dans ton cœur et dans mon cœur. Pas seulement autour de toi et autour de moi. Ce sera seulement une onction qui peut venir sur tous, comme elle est venue déjà sur beaucoup et qui viendra encore sur beaucoup. Mais si la parole de Dieu qui est venue de l'Esprit de Dieu et qui a été révélée par l'Esprit de Dieu, si cette parole de Dieu-là est plantée dans ton cœur et dans mon cœur, trouve toute la place, alors l'Esprit de Dieu vient sur toi et sur moi à cause de la parole de la vérité que nous avons reçue dans notre cœur. Il vient en nous pour la sceller. Ça, c'est la relation, la connexion avec Dieu, la connexion divine. Ça, c'est le sceau de Dieu. Sinon, comme déjà dit, c'est seulement une onction. Et alors, à la fin, elle servira à rien. Alors, on dira, n'avons-nous pas en ton nom fait ceci, fait cela? C'est ce que ces gens-là diront. Ou bien alors, c'est ce qu'on dira. Et le Seigneur devra dire, arrière de moi, vous ouvriers d'iniquité, car je ne vous connais pas. Non, il s'agit de plus. Il s'agit d'une œuvre profonde de Dieu en tous ceux qui veulent subsister devant Dieu et qui subsisteront devant Dieu. Et pour parler avec Jean 15 encore, chaque serment en lui qui porte du fruit sera vivifié. Il leur accordera toujours une nouvelle sève, une vie, pour que ce serment puisse toujours porter du fruit. Et il sera conduit de vérité en vérité et de gloire en gloire. Si nous demeurons dans, si nous sommes conduits et insérés dans ce programme divin de Dieu tel qu'il est écrit ici, il relit le verset 11 de Éphésiens 1. En lui, nous sommes maintenant aussi devenus participants de la possession promise du salut, ayant été prédestiné à cela, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Le verset 11 d'Éphésiens 1. Si vous saviez combien ne croit même pas à la prédestination, alors vous allez vous terrifier. Comment, si nous ne croyons pas à la prédestination, comment pouvons-nous être insérés dans le dessein prédestiné de Dieu, même du Sauveur? Il est dit qu'il avait été prédestiné. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas ça, on devrait le lire ici dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, à partir du verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Voilà, à la main des impies. Verset 24 de Actes des Apôtres 2, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Ainsi aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. En allemand, devant ta face. Oh, comme c'est merveilleux, comme toutes ces paroles de Dieu sont merveilleuses. Si dans Jean 17, nous lisons là, notre Seigneur prie et il dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit fondé. Avant la fondation du monde, avant que le ciel et la terre existent, avant que quelque chose soit créé, Dieu, d'éternité en éternité, avait conçu ce dessein en Jésus-Christ de rassembler en Jésus-Christ son Fils toutes choses et par lui de faire de nous des fils et des filles. Ici, nous l'avons lu en lui. Nous sommes maintenant aussi devenus participants de la possession promise du salut. Éphésiens 1, verset 11. Après avoir été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Il n'y a rien qui est du hasard. Tout a été selon le conseil de sa volonté. Nous croyons que il nous a prédestinés à l'avance pour cela dans ces jours, pour que nous puissions dans ces jours écouter sa parole. Il nous a prédestinés à le croire et à être établis, insérés dans son royaume pour écouter sa parole, recevoir sa parole. Si nous croyons que nous avons été prédestinés à l'avance à cela, donc, nous voulons aussi croire que le sceau de Dieu appartient à cette prédestination divine. Le sceau de Dieu appartient à cette prédestination. Que le Saint-Esprit qui a accordé, qui a donné la parole et qui l'a révélée et qui nous l'a dévoilée, qui nous l'a révélée, que ce même Saint-Esprit qui nous révèle sa parole vient sur nous et que par le même Esprit qui était sur tous les prophètes, qui était sur notre Seigneur lui-même et qui était sur tous les apôtres, qui se reposait sur les prophètes, le Seigneur et les apôtres, que ce même Esprit de Dieu-là ne rend pas, ne pourrait pas seulement rendre témoignage que nous sommes enfants de Dieu, selon Romains 8, versets 16 et 17, mais que il qu'il scelle, qu'il puisse sceller tous ceux qui appartiennent à Dieu, qui sont devenus enfants de Dieu. Et Frère Branham aussi a parlé de ça. Il a tiré une comparaison comme un sceau. Comment est-ce qu'un sceau est placé après que auparavant tout ait été ordonné et contrôlé et rangé et que l'inspecteur passe et regarde et dit, bon, tout est en ordre, tout est à sa place. C'est ensuite qu'on scelle, pas avant. Et il ne peut pas, et la chose ne peut pas être ouverte jusqu'à qu'elle ait atteint le but. Il y a des gens, ceux qui ont été scellés du Saint-Esprit, ils ne parlent pas demain, ils ne reviennent pas après-demain, mais ils restent, ils demeurent en Dieu pour toujours. Ce que les gens font, c'est quelque chose de passager, c'est temporaire. Les gens continuellement changent leurs opinions, leur façon de voir, leur pensée. Aujourd'hui, à 100%, ils sont convaincus que ce qu'ils croient est à 100% juste. Et demain, ils sont à 100% convaincus que ce qu'ils croyaient n'était pas juste. Non. Mais Dieu n'est pas un homme pour changer ses façons de voir, ses pensées. Il a pris une décision ferme. Et ce dessein, il exécute cette décision. Heureux celui qui peut croire, bienheureux celui qui peut croire qu'il a été prédestiné à cela avant la fondation du monde. Dieu nous a fait connaître le sentier de la vie. Actes apôtres 2, verset 28. Et les choses des morts ne peuvent pas non plus nous retenir. Notre Seigneur a vaincu tout, a surmonté tout. Et avec lui, nous serons dans la gloire. Nous verrons ce que nous avons cru ici, et peut-être encore plus que ça. Car ce que nous pouvons savoir ici sur terre, c'est très peu comparé à la gloire elle-même qui sera manifestée en nous, révélée en nous et pour nous. Dans Éphésiens 1, verset 12, « Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Bien-aimés frères et sœurs, à qui, en quoi est-ce que tu as espéré? À un homme? Alors tu seras confus. As-tu espéré dans la grâce de Dieu, en le Seigneur ton Sauveur? Dans le Seigneur ton Sauveur, alors tu ne seras pas confus. Car c'est ainsi que c'est écrit. Aucun de ceux-là qui se sont confiés au Seigneur seront confus, qui ont mis leur confiance en lui. Donc, prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses, verset 11 et verset 12, avons espéré d'avance en lui. Ensuite, au verset 13, cette phrase puissante. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et après avoir cru, en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Comme dit tout à l'heure, c'est la différence entre l'onction et le scellement. L'onction vient sur tous. Le scellement vient seulement sur les prédestinés, sur les élus, sur ceux qui prendront part à la première résurrection et qui de tout leur cœur peuvent croire qu'ils ont été prédestiné et déterminé par Dieu lui-même à voir sa gloire de cette manière. Croyez cela aujourd'hui de tout votre cœur. Ne soyez pas insensé ou bien ne vous pensez pas sage ou intelligent d'une manière inutile que personne ne pense en lui-même. Oui, mais est-ce que je devrais revendiquer cela pour moi? Mais pourquoi pas? Moi, tout ce que Dieu a fait pour moi dans la foi, je veux le revendiquer. Jusqu'à ce verset où c'est écrit dans 1 Jean 3, verset 3, que nous serons semblables à lui. 1 Jean 3, verset 3. Ça n'a pas été encore manifesté ce que nous serons. Mais quand ce sera manifesté, nous lui serons semblables. Pour moi, d'un côté, vu humainement, c'est insaisissable. Mais qu'est-ce que mon observation humaine a à voir avec le royaume de Dieu et les réalités divines? Laissons les choses humaines pour tout domaine humain et laissons les choses divines pour chaque domaine divin. Croyons-nous dans la présence de Dieu ce que Dieu a dit. Et cela nous l'accorde et cela nous sera accordé dans la réalité. Nous devons nous habituer à cela, de mettre les choses humaines, les laisser dans le domaine humain et les choses divines, les laisser dans le domaine divin. Est-ce que c'est difficile pour vous de croire en regardant à Dieu qu'il a tout pouvoir, il est plus que capable de nous transformer et de nous transformer à l'image de son Fils Jésus-Christ. Et nous apparaîtrons ainsi transformés à son image devant son trône. Et nous le verrons tel qu'il est, étant semblable à lui. Je vous dis, en un clin d'œil, nous serons pris de ce corps terrestre et nous irons dans la gloire, dans ce corps, dans un corps spirituel glorieux. On doit avoir vécu cela pour savoir ce que cela signifie. Toutes ces choses sont une réalité divine. Elles sont des réalités divines. Elles seront manifestées à nous aussi, certain que Dieu l'a promis dans sa parole. Et ça, nous voulons le recevoir dans notre cœur pour ainsi, dans la foi, honorer le Seigneur. Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et vous savez ce qui est écrit, celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Et que cela soit éloigné de nous tous de faire Dieu menteur. Non, nous croyons qu'il a dit la vérité. Nous croyons que sa parole est la vérité. Et que nous avons reçu et accepté cette vérité de sa parole et qu'elle nous a affranchi de toute erreur et que nous sommes lavés dans le bain de la parole de Dieu, purifiés dans le sang de l'agneau, et que nous lui appartenons pour ce temps et pour toute éternité. Nous avons été prédestinés à cela, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Nous sommes une partie de son royaume, ou bien une partie de l'Église du Dieu vivant. Il nous a prédestinés à cela. Que le Seigneur puisse nous bénir, nous tous qui avons accepté sa parole. Et l'évangile de son royaume, l'évangile du royaume. Nous avons aussi eu à parler de cela dans Matthieu 24, verset 14, que l'évangile, cet évangile du royaume sera prêché à toutes les nations comme un témoignage. Pas seulement un évangile, mais cet évangile du royaume. Cet évangile qui inclut tout ce qui appartient au royaume de Dieu. Et nous croyons que dans ces jours, cela s'est accompli et que cela continue à s'accomplir, que cet évangile, n'est-ce pas, est prêché au monde entier. Et qu'à cet évangile valable éternellement, plus rien ne peut être ajouté, mais plus rien ne peut aussi être retranché. Que Dieu puisse faire de nous des hommes qui le croient, qui lui font confiance, et qui se tiennent à sa disposition, qui demeurent en lui et qui sont des serments, qui sont sur lui le cep, des serments vivants qui portent son fruit, qui prêchent sa parole, qui annoncent sa parole, des hommes en qui sa puissance peut être manifestée avec puissance. Et pas seulement puisse être manifestée, mais qui va être manifestée avec puissance. Notre Seigneur était prédestiné à souffrir, à mourir. Nous sommes prédestinés par ses souffrances et par sa mort à devenir des fils et des filles de Dieu. Imaginez-vous cela. Il était prédestiné à souffrir, prédestiné à mourir. Toi, tu es prédestiné à vivre et à être dans la gloire avec lui. Oh, comme là, les rôles sont différents. Et les devoirs, mais remercie soit notre Dieu qui, dans sa grâce, nous a vus, toi et moi. Nous aurions dû être prédestinés à souffrir et à mourir. Laissez-moi vous dire cela. Nous étions jugés à la mort, condamnés à mourir. Mais il a pris notre place. Il a pris notre place. Il a payé le prix. Et alors que nous lisions ces paroles ici, elles m'ont beaucoup touché le cœur. Qu'il a été prédestiné à souffrir. Pas seulement à aller dans la gloire, mais comme c'est écrit ici, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Acte 2, verset 23. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Il fut arrêté. Il a été livré, prédestiné à mourir, à souffrir. Mais tout cela a eu lieu selon la préscience de Dieu pour un but, un grand but éternel, pour que toi et moi, nous soyons sauvés, rachetés. Il est allé jusqu'à des endroits inférieurs de la terre pour que toi et moi, nous puissions aller au ciel. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Comment est-ce que la vie pouvait être retenue par la mort? La vie a englouti la mort. Mort, où est ton aiguillon en fer? Où est ta victoire? Remercié soit Dieu. Gloire à Dieu qui nous a accordé la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur. 1 Corinthiens 15. Ce sont des réalités divines. Nous sommes sauvés. La mort a été vaincue. L'enfer a été vaincu. Nous avons été déterminés, prédestinés à être des fils et des filles de Dieu. Et cela pour toujours, pour toute éternité. Aussi, cela m'a touché beaucoup et m'a inondé le cœur. Le verset 27, « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. » Et tu me rempliras de joie devant ta face. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Alléluia. Actes chapitre 2, versets 27 et 28. Au milieu de la mort, fais connaître les sentiers de la vie. Mais bien aimé, comme Paul l'a dit, si nous mourons avec lui, nous régnons avec lui aussi. Nous devons dans la mort reconnaître que c'est dans la mort qu'il nous a fait connaître le sentier de la vie. C'est par la mort que nous reconnaissons que nous sommes placés sur le chemin de la vie. Que Dieu le Seigneur puisse bénir toutes ces paroles précieuses en nous et les placer dans notre cœur, les mettre dans notre cœur pour que nous soyons lui avec nous et nous avec lui, nous soyons enracinés et que nous devenions un avec lui et que la parole de Dieu puisse devenir une partie ferme de nous-mêmes, de notre vie, et cela pour toujours. Nous avons été prédestinés à cela. Car si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, bien-aimés enfants de Dieu, Le peuple du Seigneur a été prédestiné, déterminé à ce que la parole de Dieu demeure à nous. Nous sommes prédestinés à cela, comme l'avons dit hier soir, tous ceux qui étaient dans le royaume de Dieu. Ils ont été dans le royaume de Dieu parce que la parole de Dieu qui se tenait en... parce qu'ils portaient la parole de Dieu qui était en relation avec le royaume de Dieu. Est-ce qu'on n'avons pas entendu de Jean? Est-ce qu'on l'aurait entendu de Jean s'il n'avait pas été déterminé à ce que par lui la parole de Dieu s'accomplisse? De tous les autres, il était la voix de celui qui criait dans le désert. Et aussi tous les autres, nous ne sommes pas des spectateurs du royaume de Dieu. Nous avons part à tout ce que Dieu fait. Que Dieu le Seigneur puisse nous faire connaître le sentier de la vie pour qu'avec joie, nous puissions être remplis de joie par sa présence ou bien alors devant sa face. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Levons-nous. Tel que je suis sans rien de moi. Sinon, en ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, Agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis sans rien à moi, de moi. Sinon, en ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle, toi, Agneau de Dieu. Je viens. Courbons les têtes dans le recueillement, demeurons devant le Seigneur. Peut-être qu'il y a quelqu'un à qui le Seigneur a parlé. Frères et sœurs, il vous appelle. Il t'appelle aujourd'hui. Chacun qui entend sa voix, qu'il n'endurcisse pas son cœur. Nous voulons nous ouvrir et dire, Seigneur, tu avais été prédestiné à passer par ce chemin plein de douleur et de souffrance jusqu'à la croix et tu nous as prédestinés à voir ta gloire. Qui peut saisir cela? Qui peut comprendre l'amour de Dieu? Tout cela a eu lieu à cause de moi et à cause de toi. Acceptez l'offre de grâce de Dieu. S'il avait plus de ce que ça à nous offrir, il l'aurait fait. Il a tout mis. Il avait tous ses efforts pour nous réconcilier avec lui. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour nous frayer le chemin à revenir à lui pour aller dans la gloire. Il a fait, mais maintenant chacun de nous doit marcher sur ce chemin. Lui, il a frayé le chemin. Maintenant, nous devons y marcher. Aujourd'hui, il nous appelle aujourd'hui. Alors que nous courbons la tête et que dans la prière, nous sommes, je veux demander, est-ce que quelqu'un est ici qui veut consacrer sa vie à Dieu? Levez les mains là où vous êtes. Merci. Merci. Y a-t-il encore quelqu'un? Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Père Céleste, nous venons dans ta présence en tant qu'un peuple dans les besoins, en tant que des hommes qui n'auraient même pas de possibilité de venir à toi si toi t'étais pas venu à nous. Ô Seigneur, si du ciel t'étais pas venu sur cette terre, personne aurait pu de cette terre aller au ciel. Ô Dieu fidèle, au milieu de la mort, dans la mort, le chemin de la vie nous a été fait connaître. Le sentier de la vie, je te remercie pour cela. Ô grand Dieu, comme il est écrit, si nous mourons avec toi. Ô grand Dieu, comme tu es merveilleux. Ô chemin de Dieu, voie de Dieu. Ô hameau de Dieu, si grand, si profond, ancien et toujours nouveau. Seigneur, sauve ceux qui sont perdus, guéris ceux qui sont malades, délivre ceux qui sont liés, confirme ta parole comme vraie en nous et par nous. Nous te remettons tous ceux qui ont levé leurs mains vers toi. Tu sais ce qui les touche. Aussi ceux qui déjà étaient venus à toi, Seigneur, rapproche-les encore plus de ton cœur, de ta croix, et accorde-nous ton amour. Enveloppe-nous dans ton amour. Couvre-nous pour que nous soyons réfugiés et que nous puissions bien nous sentir dans ta présence. Ô Seigneur, mon Dieu, ensemble, nous te demandons, fais-nous grâce, pardonne, guéris, sauve, couronne de grâce et de miséricorde. Seigneur, nous te demandons aussi le vrai scellement avec du Saint-Esprit, Seigneur, que cette heure arrive dans laquelle cela sera manifesté, que tu viens sur les hommes qui ont reçu ta parole et que la différence soit faite entre ceux qui croient ta parole et ceux qui ne croient pas ta parole mais croient à des interprétations et des explications. Seigneur, nous attendons à toi. Oh, je voudrais ce jour conduire à toi beaucoup d'âmes qui par l'évangile sont venues à toi. Seigneur, nous te demandons ensemble, fais-nous grâce. Et si cela est dans ta volonté, accorde encore une fois une action de ton esprit qui dépasse notre compréhension humaine, nos pensées, conduit par ton amour divin qui nous enthousiasme tous. Seigneur, nous te demandons, bénis tous ceux qui sont dans les difficultés, qui ont été écrits et qui ont besoin de requêtes, de prières. Oh, nous te demandons, Seigneur, sois proche de ton peuple. Détends-leur tes mains percées et bénis-les. Sauveur, je te remets tous les frères et toutes les sœurs. Je les porte sur mon cœur. Ô grand Dieu, que le salaire de tes souffrances soit rassemblé et que une riche moisson d'âmes entre dans ton royaume. À toi tout est possible. Nous croyons que tu le feras. Et tous ceux qui t'appartiennent déjà, que tu puisses les conserver en tant que des sarments en toi, le cep. ô Dieu, purifie, immonde, pour que nous puissions porter encore plus de fruits. Ne nous retranche pas, ô mon Dieu, que nous soyons remplis de cet esprit. Vivifie-nous, remplis de ta vie. Sois en nous. Nous te le demandons, ô grand maître. Tu es proche de nous. Tu es un grand Dieu, un Dieu merveilleux. Nous te disons merci, toi, agneau de Dieu, pour le chemin vers Golgotha, pour Golgotha, que tu as entrepris pour la rédemption par ton sang, pour la justification, pour tout ce que tu as accordé. Seigneur, nous te disons merci. Nous voulons aujourd'hui, dans la foi, l'accepter avec reconnaissance. C'est accompli. Nous sommes rachetés. Nous t'appartenons. Tu nous as prédestinés à voir ta gloire. Détache-nous de la terre et fais quelque chose de grand en nous tous. Par ta grâce, adoration, honneur et gloire et louange te soient apportées. Ô Dieu, Dieu fidèle, nous te remercions de tout notre cœur pour ta sainte et précieuse parole, pour la bénédiction que nous avons reçue encore ce matin. Et nous te demandons aussi en même temps que tu puisses être avec nous maintenant, aussi pendant le service de baptême, que tu puisses bénir ceux qui se laissent baptiser. Tu appelles, tu attires à toi. Nos efforts sont pleins de lacunes. C'est encore le temps de la grâce. Nous pouvons encore venir à toi. Encore, tu détends ton bras. Tu conserves ton bras détendu vers nous. Tu ne veux pas que quelqu'un se perde. Tu as envoyé ta parole dans nos jours. Et tu guéris. Et tu sauves. Et tu guéris, Seigneur. À ton nom soit l'honneur. Nous te demandons, fais-nous grâce, aussi pendant le service de baptême, dans le saint nom de Jésus. Amen.